Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu et on a des Bibles à l'arrière pour ceux qui seraient en visite. Si vous n'avez pas votre Bible ou si vous avez oublié votre Bible chez vous, les placeurs vont se faire un plaisir de vous apporter la Bible. Tournez dans Matthieu 17, s'il vous plaît, pour les placeurs. Juste levez la main, puis les placeurs vont vous apporter une Bible. Tournez dans Matthieu 17. Vous avez besoin des Écritures pour plonger les regards vous-même dans la parole de Dieu ce matin. Matthieu 17. Mais on va aller dans plein de passages ce matin, donc c'est notre texte principal. On va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Seigneur Jésus, Seigneur, alors que j'étudiais ce passage cette semaine et que j'étais émerveillé par tout ce qu'il dit de toi, Seigneur, tu connais mon cœur et j'avais une crainte dans le cœur, c'était de ne pas te rendre tout l'honneur qui éclate, toute ta gloire qui se manifeste dans ce passage, Seigneur. Qui est assez grand, Seigneur, pour parler de toi, Jésus? Et vraiment rendre honneur à ton nom, à tout ce que tu es, Seigneur. Certainement pas moi. Nous sommes assemblés ce matin et c'est en ton nom, Jésus, que nous sommes assemblés. En aucun autre nom. Nous sommes assemblés, Seigneur, pour que ton nom, ta gloire soit élevée dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Afin que toutes choses tombent à leur place, nos soucis, nos inquiétudes, nos fardeaux, nos luttes, nos combats, notre espérance, notre regard sur la vie, notre regard sur l'éternité, nos attentes de cette vie, afin que toutes choses tombent à leur juste place, Seigneur. Ton nom doit être élevé dans nos cœurs. Seigneur, je te prie de nous parler par ton Esprit Saint et par ta parole ce matin. Viens, Seigneur, prendre ce moment où nous sommes penchés sur tes Écritures. Viens, Seigneur, prendre les explications de ma bouche, les exhortations de mon cœur, Seigneur. Et que ce soit ta parole pour nos cœurs ce matin, Seigneur. Que ce soit ton Esprit qui les applique dans nos vies. Et je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui seraient ici au milieu de nous ce matin, indifférents, aveugles à ta grandeur, ô Jésus-Christ. Viens faire tomber, Seigneur, le voile qu'il y a sur leur cœur, dans ta grâce, et qu'ils voient ta gloire éclater pour une première fois, Seigneur. Que ton nom soit béni. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Pensez-vous que vous connaissez et que vous avez vraiment compris qui est Jésus-Christ? Pensez-vous sérieusement que vous avez saisi pleinement qui était ce personnage, Jésus de Nazareth, qui est venu sur la terre voilà 2000 ans? Ce qu'il représente, ce qu'il incarne, ce qu'il est, pensez-vous vraiment l'avoir saisi? Si vous êtes familier avec la parole, votre réponse c'est pas de ta fête. On travaille là-dessus. On s'en va vers ça. Et c'est ma conviction. C'est que tant et aussi longtemps que je ne me retrouverai pas en face de mon Sauveur Jésus-Christ, dans toute sa gloire et sa majesté, je n'aurai pas saisi vraiment qui il est. Et je pense que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous lis quelques passages. Vous n'avez pas à tourner avec moi. Juste en note, si vous voulez. Philippiens, dans Philippiens 2, verset 9. « Je crois qu'un jour, toute créature, tout homme sur la terre reconnaîtra enfin qui est Jésus-Christ. » Et voici ce que Paul dit dans Philippiens 2, verset 9. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parlant de Jésus, et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, tous les hommes de tous les temps, toutes les femmes reconnaîtront véritablement qui est Jésus-Christ. Et jusque-là, je pense qu'on avance dans notre compréhension tout simplement de Jésus-Christ. Parce qu'on n'a pas été dans sa présence et dans sa gloire encore. Est-ce que vous attendez ce moment de grâce? Je parle souvent avec Jean-Guy. Jean-Guy est toujours en train de nous parler du retour du Seigneur. Je suis convaincu que Jean-Guy attend ce moment de grâce. Où il va rentrer dans la présence de Dieu et tout va prendre sens. Toutes les incertitudes, tous les doutes, toutes les luttes, tous les combats, tout ça va disparaître en un instant dans la présence de Christ, quand sa majesté va éclater devant nous. Parce qu'on ne connaît pas parfaitement encore. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 13, si vous êtes familier avec les Écritures, allez-y rapidement. Comme je vous dis, on va aller dans plein de passages ce matin. 1 Corinthiens 13, verset 9. Corinthiens 13:9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et lui prétendait connaître seulement en partie. Alors, qu'est-ce que moi j'ai à dire? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Un jour, je vais me retrouver devant mon Sauveur et je vais le connaître comme il me connaît, parce que je serai en face de lui. Et j'attends ce jour glorieux. Et j'ai la ferme conviction que juste on apprend à le connaître. Nous le découvrons. Nous grandissons dans notre compréhension de Jésus-Christ, de sa gloire. Et lorsqu'on s'assemble ainsi, puis qu'on commence à chanter des louanges, c'est pour contempler sa gloire, c'est pour s'exhorter les uns les autres. Puis, oups, il y a une vérité d'un chant qui enfin vient prendre place dans notre cœur. Et là, la gloire de Christ éclate un peu plus dans nos cœurs. On est capable de l'adorer pour de vrai. Un peu plus, mais nous sommes en cheminement jusqu'au jour où nous serons face à face avec lui. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Est-ce que vous croyez cela? Ça va être un jour glorieux. Toutes les luttes, tout va tomber. On va juste dire, je comprends, Seigneur. Je comprends qui tu es. Ta beauté, ta splendeur, ta grandeur, je comprends enfin, Seigneur. Et tout le reste va disparaître. Ce matin, dans l'évangile de Matthieu, venez avec moi dans Matthieu 17, on retrouve les disciples. Dans Matthieu 16, Jean vient de faire une déclaration. C'est vraiment par une révélation de l'Esprit-Saint qu'il a fait cette déclaration. Jésus leur demande, « Vous, qui est-ce que vous pensez que je suis? » Puis Pierre a déclaré, « Tu es le Christ. » Ça veut dire le Sauveur, le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Enfin, les disciples pensent avoir saisi qui est Jésus. Jusqu'au moment de cette déclaration-là, ils appréhendaient, ils voyaient des choses, ils commençaient à mesurer, ils voyaient Jésus faire des choses, dire des choses, puis est-ce que vraiment on est rendu là? Est-ce que le moment est arrivé? Est-ce que c'est juste un autre prophète où enfin les prophéties sont toutes en train de s'accomplir? Et puis plus ils avancent, plus ils commencent à avoir une conviction qui se forme dans leur cœur et vient ce moment où par une intervention de Dieu, par une révélation véritablement, c'est Dieu le Père qui l'a fait connaître à Pierre. Pierre fait cette déclaration majestueuse. Tu es le Sauveur que nous attendions. Tu es le Sauveur que nous attendions. Fils du Dieu vivant. Et là, les disciples pensent avoir saisi qui est Jésus. Ils pensent avoir cerné. Enfin, qui est Jésus-Christ? Dans un sens, c'est vrai. que Pierre déclare là, c'est vrai. C'est déjà extraordinaire. Ce que les disciples ont compris de Jésus, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Combien de gens autour de vous, dans vos connaissances, ont même juste compris ça sur Jésus? Qu'il est le Sauveur. Qu'il est le Fils du Dieu vivant. Probablement, au contraire, que la majorité des proches autour de vous pensent que Jésus, c'est un grand sage. C'est un grand sage parmi les grands sages. Et déjà, en disant ça, ils sont en train de l'honorer à leurs yeux parce qu'ils sont pas en train de dire, ben, la Bible, regarde, c'est une affaire pour mon arrière-grand-mère, puis jette ça aux poubelles. Non, déjà, ils sont en train de dire, non, j'aimerais ça la lire un jour. J'aimerais plonger les regards parce qu'il y a des paroles, je pense, d'une sagesse millénaire là-dedans, comme un ami m'a dit dernièrement. Je pense qu'il y a des vérités millénaires là-dedans, des sagesses des vieux sages. Et il place Jésus parmi ces vieux sages qui ont traversé. Ils sont en train de l'honorer en faisant cela. Non? Je veux dire, c'est déjà mieux que de dire que Jésus, c'est un fantoche, une marionnette ou un hypocrite qui est venu prétendre quelque chose. Alors déjà, ils ont l'impression d'être en train de l'honorer, déjà d'être en train de l'élever. Mais s'il n'en reste qu'à ça, au jour dernier, lorsqu'on va tous paraître devant Christ, ils vont réaliser qu'en fin de compte, ils n'ont à peu près rien compris sur Jésus, non? À peu près rien. Pas l'essentiel, pas assez pour aller dans sa présence pour l'éternité. Alors probablement que les gens autour de vous sont à une compréhension de Jésus-Christ que les disciples ici avaient. C'est déjà pas mal. Quand tu es capable de dire que Jésus est le Sauveur des hommes, qu'il est le Fils de Dieu, et si en plus de ça tu le crois, tu es déjà rendu pas mal plus loin que la majorité des gens autour de toi. Alors que pour plusieurs d'entre eux, Jésus est un personnage folklorique. Pour plusieurs d'entre eux, c'est un des grands sages, il fait partie de la culture, c'est un personnage folklorique. C'est tout. Félix Leclerc, c'est un personnage du folklore québécois. Super poète, j'aime Félix Leclerc, j'aime écouter ses chansons. Je les fais entendre à mes enfants pour qu'ils découvrent l'histoire du Québec, qu'ils découvrent la culture québécoise, qu'ils tombent en amour avec le Québec. Puis je suis fier de ça. Mais vous savez quoi, Félix Leclerc, je me baserai jamais sur ses poèmes pour guider ma vie, là. Un personnage qui fait partie du folklore québécois, c'est un grand bonhomme du Québec. Point. Mais pour bien des gens autour de nous, Jésus, c'est un autre personnage du folklore de l'Occident. Point. Intéressant à lire. Ça fait partie de la culture. C'est un must. Écoute, faut que tu lis ça dans ta vie au moins une fois, la Bible. Il faut que ça fasse partie de ta culture générale. Est-ce que Jésus est un personnage folklorique pour toi? Vous savez, j'ai commencé à venir dans cette assemblée, pas dans ce bâtiment, dans un autre puis un autre avant, quand j'avais environ 7 ans. Peut-être que dans les premières années, 7, 8, 9 ans, c'était pas un personnage folklorique. Je parlais à Jésus, je parlais avec Jésus, je priais, je lui adressais des prières, mais force est d'admettre que les années qui ont suivi ont démontré dans ma vie que jusqu'à l'âge de 19 ans, Jésus était pour moi un personnage folklorique. Il faisait partie du folklore familial. Moi, je viens d'un background chrétien. Ça, c'était mon background à moi. That's it. Jusqu'à l'âge de 19 ans, Jésus était un personnage folklorique pour moi. Je savais ce qu'on disait de lui. Je savais qu'il avait dit de belles paroles, mais il n'a pas guidé ma vie. Jusqu'à ma conversion à 19 ans. Ou un peu comme les disciples vont le faire ici, ils sont tombés sur leur face. Je suis tombé à genoux. Est-ce que Jésus est juste un personnage folklorique pour toi? Les disciples sont déjà rendus plus loin que ça. Et ils ont compris qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. En même temps, ils n'ont pas tout à fait saisi encore qui est Jésus. Ils ont fait une belle déclaration, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus est le Sauveur, il est le Fils de Dieu. Où est-ce qu'il se situe dans l'histoire de la Révélation? Tu sais, il y a d'autres grands la Bible, Moïse, par exemple. Où il se situe dans tout ça, lui? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Fils de Dieu. Est-ce que tous les hommes sur la terre ne sont pas des fils et des filles de Dieu? On est tous des créatures de Dieu. Moi, je peux dire à n'importe qui en sortant d'ici, je croise quelqu'un sur la route, puis dire, t'es un enfant de Dieu, dans le sens que c'est Dieu qui t'a créé. C'est pas un extraterrestre qui t'a créé, t'es pas un accident de la nature, t'es pas un fruit de l'évolution. C'est Dieu qui t'a créé. T'étais dans les projets de Dieu de toute éternité. Dans un sens, c'est un fils de Dieu. Puis encore plus, tous les chrétiens, on fait partie de la famille de Dieu. Tantôt, on a parlé de la famille de Dieu. Nous sommes tous des filles, des filles, des Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est ça qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Les disciples n'avaient pas tout à fait saisi encore. Ils sont en train de grandir dans leur compréhension de qui est ce Jésus. Je vous lis le passage Matthieu 17, les versets 1 à 13, où Jésus va venir se révéler davantage encore. 6 jours plus tard, après la déclaration de Pierre, puis tous les enseignements qui ont suivi ça, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3 disciples seulement, Jean, frère de Jacques, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir. » et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait. C'est un passage incroyable pour quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, parce que tu commences à lire, et là, si vous avez quelques années de lecture de la Bible, juste avec cette lecture, vous avez des passages de l'Ancien Testament qui vous sont venus à l'esprit. Différents passages. Il y a plein d'allusions dans ce texte-là à des textes de l'Ancien Testament, à des scènes de l'Ancien Testament. Par exemple, évidemment, Jésus qui... Mon micro intercale trop, c'est ça? OK. Ça veut dire que je vais rester derrière la chair. OK. Ça se peut que je tape, par exemple, quand je reste derrière la chair... C'est pas que je tape.
C'est correct.
C'est correct? OK. Merci. Donc, je ferme ça. C'est ce que je disais? Des allusions. Il y a plein d'allusions à l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque Moïse est monté sur la montagne. Moïse monte sur la montagne et puis lorsqu'il redescend, il a passé du temps dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à Dieu. Oh, le visage de Jésus rayonne ici. Une allusion sur la montagne. Tous les deux, ça se passe là. Lorsque au verset 5, pendant qu'ils sont en train de parler, une nuée lumineuse les couvrit. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, lorsque Dieu se manifeste, il y a une nuée lumineuse qui apparaît. On l'appelle la Shekinah en hébreu. Pensez au moment de la dédicace du temple avec le roi Salomon. Le temple est terminé d'être construit. On dédie, on consacre ce temple à l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La présence de Dieu. Dieu vient faire sa demeure dans ce temple, mettre sa présence là. Et il y a cette nuée lumineuse qui vient envahir le temple. C'est la présence de Dieu qui est manifestée. Pensez au voyage, au pèlerinage dans le désert où Israël était conduit par une colonne, une nuée lumineuse qui manifestait la présence de Dieu. C'était la Shekinah de Dieu. Il y a plein d'allusions dans le passage. Ici, on va en voir quelques-unes ce matin à des textes de l'Ancien Testament. Et lorsque Dieu fait ça dans ses Écritures, il veut attirer notre attention. Ces choses-là dans l'Ancien Testament étaient des symboles de choses qui viendraient plus tard. Et Dieu veut attirer notre attention pour nous aider à saisir l'importance de ce qui est en train de se passer ici, à ce moment historique. Maintenant, avant de regarder ça, la question à laquelle je voudrais répondre, c'est pourquoi est-ce que Jésus conduit ces trois gars-là sur la montagne avec lui? Pourquoi Jésus conduit ces trois disciples-là? Est-ce que c'est un moment clé dans le ministère de Jésus, où Jésus a besoin d'une tape dans le dos de la part de son Père? On approche du moment fatidique où Jésus va aller accomplir les prophéties de la croix. Est-ce que c'est un moment où Jésus a besoin d'un peu d'encouragement de la part de son Père? Il va avoir la voix du Père ici qui va se faire entendre. C'est exceptionnel. Deux fois seulement, ça se produit à son baptême et puis ici. Lorsque Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, et à ce moment-ci, est-ce que Jésus a besoin d'être réconforté ici? Je ne pense pas. Il n'avait pas besoin des trois gars qui étaient là. Et vraiment, ce que je crois, c'est que Jésus amène ces trois disciples-là privilégiés avec lui pour leur révéler un peu de ce qu'il était avant de venir sur terre, et de ce qu'il sera après lorsqu'il retournera auprès de son Père. Et je crois que c'est ça qui se passe dans ce passage. Jésus a amené ses trois disciples pour juste ouvrir le rideau un petit peu et les aider à saisir ce qu'il était avant de venir et ce qu'il sera lorsqu'il retournera auprès de son Père. Après sa mort, sa résurrection, son ascension, il retourne auprès du Père dans sa gloire. Et je crois que c'est ça qu'il est en train de faire ici. C'est une révélation de Jésus-Christ, ce passage. Et c'est ça le cœur du passage ici. Déjà au verset 2, on peut voir toute la différence entre Jésus, par exemple, et tous les grands personnages des Saintes Écritures. Il y a une allusion à Moïse ici dans le passage. Et déjà, on peut dire, par exemple, que Jésus est beaucoup plus grand que Moïse, infiniment plus grand que Moïse ici. La scène qui nous est décrite, comme je l'ai mentionné tantôt, ressemble à ce moment où Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Et Moïse va passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il va parler directement avec Dieu. Et parce qu'il passe du temps dans la présence de Dieu, quand il redescend son visage, le livre d'Exode nous dit « rayonnait ». Tu passes pas du temps dans la présence de Dieu sans que ça ait un effet sur toi. De la même manière que si tu t'en vas prendre des vacances dans le sud, puis tu t'exposes au soleil pendant 3 semaines, ben tu ressembleras pas à ça, tu sais. Peut-être plus à mon frère Edner, mais pas à moi. D'accord? Moïse est allé passer du temps dans la présence de Dieu et s'est entretenu avec Dieu. Il a été exposé à la gloire de Dieu. Lorsqu'il est redescendu, son visage rayonnait. C'est ce que le texte nous dit. Son visage reflétait la gloire de Dieu. Son visage ne reflétait pas la gloire de Moïse. Remarquez bien la différence qui se passe ici dans le passage. Lorsque Moïse est monté sur cette montagne, il a laissé le peuple au pied de la montagne. Il est allé dans la présence de Dieu et puis exposé à la gloire de Dieu. Son visage a commencé à être imprégné par la sainteté, la luminosité de Dieu. Quand il est redescendu pendant un certain temps, il a même couvert son visage parce qu'il a été exposé à la gloire d'un autre. Pas la sienne. C'est pas ça qui se passe exactement dans le passage ici. Jésus ne laisse pas ses disciples en bas pour aller s'entretenir avec son Père avant d'aller à la croix. Et lorsqu'il redescendrait d'avoir été dans la présence de son Père, son visage serait rayonnant. Ce n'est pas ça que le texte dit ici. Regardez ce que le passage dit dans Matthieu 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Le mot qu'il y a là, c'est métamorphéo, métamorphose. Son visage a commencé à se transformer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais son visage a commencé à se transformer à ce moment-là. Et comme pour nous aider à comprendre ce qui est indescriptible, voici ce que Matthieu nous rapporte. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus n'a pas commencé à se transformer parce qu'il a été exposé à la gloire du Père. Il y a quelque chose qui a commencé à émaner de lui, de l'intérieur, de ce qu'il est, de sa propre gloire à lui. Il n'y a pas d'autre intervention divine encore. La Shekina, la nuée, n'est pas arrivée encore. Dieu le Père n'a pas commencé à faire éclater sa voix encore. Jésus, trois hommes, tout d'un coup, Jésus commence à se transformer. Qu'est-ce qui se passe? Son visage commence à se transformer. Son visage commence à resplendir comme le soleil. Ses vêtements commencent à se transformer. Il n'y a eu aucune autre manifestation de Dieu, sinon Jésus qui est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient de lui. C'est pour ça que je vous dis que Jésus a conduit ses trois disciples sur cette montagne pour leur révéler un peu de ce qu'il était avant de venir comme un homme et de ce qu'il sera après lorsqu'il va retourner auprès de son Père. Quand Moïse est redescendu de la montagne, dans son cas, on parlait de la gloire de Dieu. Si Moïse avait été là et puis les gens avaient commencé à dire « Oh, mais qu'il est glorieux ce Moïse! » Ça aurait été un blasphème, non? Ça aurait été un blasphème de commencer à prétendre que cette luminosité qu'il y avait sur le visage de Moïse venait de sa propre gloire personnelle. Ça aurait été un blasphème. Jésus n'est pas un autre des grands docteurs de la loi dans la parole de Dieu. Jésus n'est pas un autre des grands prophètes de la Bible. Il est tout cela. Mais si on s'arrête là, on n'a rien compris sur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même va parler de ça lorsqu'il va parler de sa gloire à lui. Lorsque les disciples l'interrogent un peu plus tard, je vous lis un passage dans Jean 14, 9. Philippe l'interroge, puis Philippe lui demande de lui montrer le Père. Écoutez bien ce que Jésus dit. Jean 14, 9 à 11. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Philippe demande de voir le Père. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Dans la théologie du christianisme, on a appelé ça la Sainte Trinité. Jésus n'a pas usurpé la gloire du Père. Jésus n'a pas reflété la gloire du Père. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il procède du Père. Il est lui-même glorieux. C'est Dieu fait homme qui est devant nous. Je continue dans Jean 14, verset 9 et suivant. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? » C'est toujours Jésus qui parle. « Et que le Père est en moi? » Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Moïse n'aurait jamais pu dire cela. Ça aurait été un blasphème. Dieu l'aurait foudroyé sur place. Après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, si Moïse, en descendant de la montagne, avait essayé d'usurper la gloire de Dieu, puis il avait prétendu maintenant qu'il fallait se prosterner devant lui, le reconnaître lui comme étant dans le Père et le Père en lui, je pense que Dieu l'aurait zappé juste là. Un peu de la sainteté de cette montagne serait parti de la montagne, puis pouf, serait venu le chercher tout de suite là. On va en prendre un autre, t'as rien compris, mon homme. Mais Jésus dit cela ici. C'est la déclaration de Jésus sur lui-même. Moïse n'aurait jamais pu dire cela. Est-ce que les disciples ont tout saisi ça à ce moment présent? Là, sur la montagne, parce qu'il y a cette transformation, ils comprennent tout cela? Non, pas encore. Mais plus tard, les disciples vont se rappeler de ce moment où ils étaient sur la montagne avec Jésus. Il y avait 3 disciples avec lui, Pierre, Jean, Jacques. 2 de ses disciples vont reparler de ce moment-là. Tournez avec moi dans 2 Pierre 1, s'il vous plaît. 2 Pierre 1. Ça a été un moment clé dans la révélation de Jésus-Christ pour Pierre lui-même. Pierre était là sur la montagne. Plus tard, Pierre, il y a des choses qui vont tomber en place dans son esprit par une révélation de l'Esprit-Saint. Il va comprendre des choses qui avaient été annoncées avant qu'il ne pouvait comprendre qu'après. Et dans 2 Pierre 1, versets 16 et 17, c'est Pierre qui parle. 2 Pierre 1, 16 et 17. Ce n'est pas en effet en suivant des fables, des histoires habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu, écoutez bien cela, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. De quoi il parle après sa résurrection? Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Voici comment Pierre interprète ce qui s'était passé ce jour-là, au moment de la transfiguration. Voici la marque que cela a laissée dans son cœur, dans sa compréhension de Jésus-Christ. Il n'a pas tout compris ça avant sa mort, sa résurrection, son ascension. Il n'avait pas tout saisi cela. Mais après, alors qu'il médite sur ces choses et il réalise qui est Jésus, il retourne en arrière et voici comment il en fait la lecture. Voici comment il le voit. Sa majesté. Un jour, je verrai la majesté de Jésus-Christ de mes propres yeux. Je ne l'ai pas vu encore. Mais j'attends ce jour-là. Et je pense que je vais faire exactement comme Pierre. Je vais tomber sur ma face. Tournez avec moi dans Jean 1. Pierre, Jacques, Jean, les 3 disciples qui étaient avec lui sur la montagne. Tournez avec moi dans Jean 1. Jean 1. L'évangile de Jean. Jean a écrit son évangile après que tout se soit produit, d'accord? Alors, dans son introduction, les 14 premiers versets, c'est une introduction à l'évangile de Jean. Puis là, Jean fait une réflexion. Il nous parle de celui dont il va raconter l'histoire. Dans Jean 1, il dit au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il faut attendre jusqu'au verset 14 pour voir que cette parole a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est de Jésus dont il est question. Ouf, là, Jean commence à vraiment comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Fils unique de Dieu? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà qui était Jésus, le Fils de Dieu. Voilà qui il est. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jésus est la parole, Jésus est la lumière. Verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons vu de nos yeux sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Après la déclaration de Pierre, où Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant les aide à saisir un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous montrer un peu de ma gloire. Jésus n'est pas un autre des grands sages, un autre des grands chefs d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre texte? Revenez avec moi dans Matthieu 17. Deux personnages apparaissent aux côtés de Jésus. La gloire de Jésus commence à se manifester dans toute sa splendeur. Et puis, deux personnages importants apparaissent, verset 3. Et voici Moïse et Élie, leur apparurent, s'entretenant avec lui. Je ne sais pas comment ils ont fait pour les reconnaître, OK? Aucune idée. Mais ils sont là. Je ne sais pas non plus de quoi ils parlent. Je ne sais pas combien de fois des chrétiens m'ont dit « Ah, j'aurais aimé ça, juste écouter la conversation, là, pour qu'ils nous aident à comprendre les textes, là, de quoi ils parlaient ces personnages-là. » Je sais une chose, c'est que j'ai Moïse et j'ai Élie. Alors, il y a certainement une allusion à tout l'Ancien Testament avec la loi qui nous a été donnée à travers Moïse. La loi divine a été donnée à Moïse qui l'a transmis au peuple. Vous avez déjà les cinq premiers livres de la Bible qui sont là. Puis Élie, un des plus grands prophètes, représente au moins une allusion aux prophètes. Vous avez toute la révélation qui est représentée par ces deux personnages symboliques qui sont là. Très important. Il y aurait d'autres choses à aller chercher aussi. J'ai pas le temps de le faire ce matin, je suis désolé. Je pense qu'il y a pas mal d'autres choses intéressantes par rapport à la venue du Messie que Moïse a mentionné, entre autres, un autre prophète qui viendrait comme lui, puis Élie d'autres choses aussi. Mais il y a au moins une allusion à tout l'Ancien Testament, toute la révélation de Dieu jusqu'à Jésus. De quoi il parle, je ne sais pas. Aucune idée. Mais regardez bien ce qui se passe dans le cœur des disciples au moment où ils voient cela. Regardez ce qui se produit. Les disciples sont présents sur la scène. C'est pas Jésus qui leur apporte. « Ouais, en haut, je suis parti pour un bout de temps. Je suis allé parler avec Moïse puis Élie. » Non, c'est pas ça. Les gars sont là. Ils regardent ça. Moïse est là. Élie est là. Tout d'un coup, tu as Jésus, Moïse, Élie qui sont là. Wow, moment historique. Imaginez, là, vous êtes un Juif qui a tout l'Ancien Testament entre les mains et vous avez Moïse. J'aurais aimé, moi, si j'avais été à la place de Pierre, aller prendre un café avec Moïse. Peux-tu rester un petit peu, on prend un rendez-vous? Juste jaser un peu, tu me racontes ça. Tu sais, quand les eaux... J'aimerais ça, là, conte-moi ça, là. Pharaon, qu'est-ce qu'il y avait de là, la dernière shot? C'était quoi qu'il y avait sur son visage? Je sais pas, il me semble. C'est un moment historique! C'est un des héros les plus importants de l'Ancien Testament. Vraiment une des pierres de fondation pour l'Ancien Testament. Alors, vous avez Moïse qui est là, Jésus qui est là, et puis vous avez Élie qui est là, c'est un moment historique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben Pierre, qui était toujours tellement spontané, c'est beau ce qu'il fait ici, Pierre. Pierre leur dit, OK, Seigneur, on peut être utile, là. C'est un moment historique, on n'a pas de Kodak, on pourrait monter des tentes. Passer la nuit, trois tentes. On vous montre trois tentes, c'est un moment historique qui est ici. Écoute, il faut que ça dure, cette affaire-là. Moi, je veux que ça continue. Et il y a quelque chose qui se passe ici. Maintenant, je pense que ce qui est en train de se produire ou ce qui se pouvait se produire dans le cœur de Pierre, de Jacques et de Jean à ce moment-là, c'est de voir cette scène comme un moment qui était pour confirmer l'importance de Jésus. Je pense que c'était facile pour ces trois hommes-là, tout d'un coup, de voir Jésus qui, ça a l'air d'être le bon. Ça a l'air d'être lui, il fait plein de miracles, fait plein de belles choses extraordinaires. On pense que c'est le bon, mais là, écoute, Moïse, Élie, je veux dire, il y a au moins de la trempe de ces bonhommes-là. Et je pense que la tentation était là très, très facile, tout simplement de dire, écoutez, si on avait des doutes, on va le mettre au moins, tu sais, Moïse, Jésus, Élie, au moins. Est-ce que c'était ça que Dieu voulait faire ici? Je pense pas. Et Pierre, en suggérant de monter ses trois tentes, est en train de dire, il y a un moment historique ici. On a Moïse, Jésus et puis Élie. Waouh! Non, tu comprends pas, Pierre. Et Pierre aura même pas le temps de terminer sa phrase. C'est pas Jésus qui va se défendre ici. D'ailleurs, c'était pas dans les habitudes de Jésus de se défendre, vous remarquerez. Jésus ne se défendait pas lui-même. Ailleurs, dans l'Évangile de Jean, il va dire que c'est le Père qui lui rend témoignage. Mais c'est ça qui va se passer ici. Il pourrait avoir une confusion, mon Pierre. Tu pourrais mettre Moïse, Jésus et Élie sur la même tablette, tout est sur le même niveau, tous les trois. Et pendant que Pierre est en train de parler, il se fait couper la parole par nul autre que Dieu le Père. Regardez avec moi dans le verset 5. « Comme il parlait encore. » C'est pas innocent le commentaire de Matthieu ici. Pierre est en train de dire cela et il se fait couper la parole par Dieu. Dieu le fait pas souvent. mais il pourrait avoir une confusion sur son fils. Et là, il intervient. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette nuée, c'est la Shekinah de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est manifestée. Dieu se manifeste à travers son fils ou à travers une nuée. C'est la présence de Dieu qui est manifestée. La Shekinah de Dieu apparaît à ce moment-là et une voix va se faire entendre du milieu de cette nuée. J'ai jamais entendu cette voix. Vous non plus. Une voix comme on n'en entendra pas avant d'être dans la présence de Dieu. Pourtant, on peut la reconnaître sans même l'avoir entendue. On peut la reconnaître à l'effet qu'elle va produire, cette voix. Verset 6, « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. » On pense à Daniel. Lorsque Dieu s'est manifesté, ses compagnons se sont sauvés. Daniel est tombé sur sa face. On pense au passage de Deutéronome, quand Dieu a fait entendre sa voix et les anciens et le peuple ont supplié que Dieu cesse, arrête de faire entendre sa voix parce que c'était insupportable. Tant sa gloire et sa majesté étaient là, le simple son de sa voix leur faisait craindre d'être foudroyés, de mourir sur place à cause de la grandeur et de la majesté et la splendeur de Dieu. Je ne l'ai pas entendu, mais je vois l'effet qu'elle fait et je la reconnais. Et on sait que c'est la voix du Père parce qu'il va parler de Jésus comme étant son propre fils, comme étant son fils qui est là. Il tombe par terre, foudroyé de terreur, de crainte. Et Dieu intervient parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait une confusion dans notre esprit sur la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu intervient. Dieu ne veut pas qu'il y ait une confusion dans notre esprit sur l'importance de Jésus-Christ, sur la personne de Jésus-Christ. Cette semaine, j'étais en train de préparer ce message et puis j'étais anxieux d'exposer ce texte-là. Il y a des passages qu'on rencontre. Esther a dit à toutes les fois que tu prêches, tu es tout excité par le texte. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des passages que tu prêches puis tu te dis, « Seigneur, je n'aurai pas deux chances avec ce texte-là. C'est trop grand, Seigneur. » Si vous ne pouvez retenir que ce que la voix du Père va faire entendre ici, seulement que ça, parce que le Père intervient, coupe la parole à Pierre, afin qu'il n'y ait pas de confusion sur la personne de Jésus-Christ. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Et comme si ce n'était pas assez clair, toute l'importance de Jésus, comme si ce n'était pas assez clair. La voix se tait, la nuée disparaît. Les disciples sont encore en train de trembler par terre, de crainte, de peur. Ils n'osent même pas lever la tête, ils n'ont pas levé la tête encore. Jésus va vers eux, les touche, les rassure. Et qui est-ce qu'ils voient? Moïse, Élie, Jésus? Moïse et Élie sont partis. Il ne reste que Jésus. Il ne reste que Jésus. Parce qu'il y en a un seul en qui Dieu le Père a placé toute son affection. Il y en a un seul que le Père a désigné de son doigt pour dire « Écoutez-le ». Ne me parlez pas de Mahomet, de Krishna, de Bouddha, de tous ces soi-disant prophètes qui ont dit des choses sages parfois. Ce n'est pas ça la question. mais commencer à les mettre sur un pied d'égalité avec Jésus. Même pas Moïse, même pas Élie. Et cet argument-là revient constamment dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. C'est l'argument de la lettre aux Hébreux. Jésus est incomparable. Et c'est pour ça qu'on se pâme devant Jésus. C'est pour ça qu'on est tellement fatigant. Si tu n'as pas eu cette révélation de Jésus-Christ, tu nous trouves fatigant avec Jésus, 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 Jésus. Et c'est en lui que Dieu le Père a mis toute son affection, aucun autre. La prochaine fois que vous allez lire Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné celui en qui il a mis toute son affection. » C'est celui-là qu'il a donné. C'est vous dire l'amour qu'il a pour vous, qu'il a pour moi. Lorsque Dieu intervient comme ça ici dans le passage, il fait référence au moins à deux textes dans l'Ancien Testament et le temps court. Je n'ai pas le temps d'aller les regarder, mais je vous les donne. Vous prendrez le temps d'aller les voir. Psaume 2, verset 7, qui nous parle du Messie comme un roi qui va venir et lui dit « Tu es mon fils ». Et Dieu est en train de faire allusion à ce psaume-là, qui est un psaume prophétique. Il est en train de faire allusion à Ésaïe 42. Il parle de son serviteur en qui son âme prend plaisir. Et quand tu lis Ésaïe 42, tu vois très bien que c'est un texte prophétique qui parle de Jésus qui va venir comme un serviteur qui est doux, qui est compatissant. Et tu vois que c'est un texte prophétique. Dans ce passage d'Ésaïe 42, l'Éternel dit « Tu es mon serviteur en qui mon âme prend plaisir ». Dieu prend plaisir de toute son âme dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà qui est Jésus-Christ. Jésus est le Messie. Il est le Christ, le Sauveur des hommes. C'est vrai. Jésus est le Fils de Dieu. C'est vrai. Vous saisissez vraiment ce que ça veut dire quand vous réalisez qu'il est celui en qui Dieu a placé toute son affection. Quand vous commencez à saisir la gloire qui était sienne avant qu'il vienne sur la terre, il n'a pas usurpé cette gloire à personne. C'était la sienne. C'est Dieu le Fils parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et comme si ce n'était pas assez, Jésus en rajoute encore un peu en nous révélant un autre aspect de sa personne. Et je pense que c'est vraiment important, parce que Jésus n'est pas que la voix qui s'est fait entendre ou dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Jésus est cette grâce et cette douceur et cette bonté. Alors après que les disciples ont entendu cette voix incroyable, qu'ils sont par terre en train de trembler, puis la nuée est partie, puis ils n'osent même pas relever la tête, Jésus nous révèle un autre aspect de sa personne. Il vient vers eux, puis les touche. Il les rassure en leur disant, « N'ayez pas peur. » Parce que c'est ça, Jésus. C'est cette proximité, cette grâce, cette douceur merveilleuse qui vient tout près de nous, toucher notre cœur, à notre écoute. C'est ce bon berger qui, malgré toute sa gloire, toute sa beauté, toute sa majesté qu'il possédait avant de venir sur la terre, est venu vers nous, nous toucher et nous dire, « N'ayez pas peur. » Jésus, c'est ce bon berger du psaume 23 qui prend soin de nous tendrement. Il n'est pas que ce grand Dieu merveilleux. Il est tout près de nous aussi et il comprend. Vous savez, quand la voix s'est fait entendre, quand la Shekina est apparue, Jésus n'est pas tombé par terre, foudroyé de terreur. Il n'était pas là, puis devant Dieu. Il était comme chez eux. C'est Dieu le Fils. C'est le Fils de Dieu. La Shekina arrive. Home sweet home. Il est chez lui. Mais pas les disciples. Les disciples, c'est des hommes comme vous et moi, des pécheurs dans la présence de Dieu, pouf, par terre. Et Jésus, dans sa douceur, dans sa bonté, dans son amour, est allé vers eux, les a touchés. Et il leur a dit, n'ayez pas peur. C'est ça, Jésus aussi. Maintenant, je crois qu'il y a un piège. Et je termine avec ça. Je crois qu'il y a un piège pour nous de rester à ce dernier moment-là. Jésus, c'est Dieu fait homme qui est venu marcher parmi les hommes. Jésus, c'est mon pote. C'est celui qui me console quand ça va mal. C'est mon thérapeute. Il m'aide quand ça va pas bien. J'ai fait un petit chèque le dimanche matin. Jésus, c'est mon conseiller. Je l'appelle quand j'ai besoin de lui. Le verset clé de ce passage-là, c'est pas Jésus les toucha. Le verset clé de ce passage-là, c'est le verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est ça le passage, le texte clé. Ma relation avec Jésus, c'est la relation avec ce Jésus doux et tendre qui est venu vers moi et qui m'a dit, Yannick, arrête de trembler, je suis là, je m'occupe de tout. C'est le Jésus qui est allé vers les apôtres, vers les disciples dans la barque. C'est le Jésus qui a tendu la main vers Pierre. Amen, pas de problème. Dieu merci, t'es gracieux comme ça. Yes, c'est pas mon pote. C'est celui dont la voix du ciel a dit, écoutez-le. Et nous sommes en danger, frères et sœurs. Nous qui pensons avoir compris qui est Jésus, de ne pas écouter ce commandement-là. Et d'arriver dans des situations, et puis on est en relation avec Dieu comme avec notre pote. Laissez-moi être pratique. Collègue de travail, une peste. Tu sais, tu fais ton culte le matin, tout va bien, tu t'en vas dans l'auto, tu écoutes des chants de louange. Alléluia, Jésus est vivant. Wow, je vais être un bon témoignage au travail aujourd'hui. Et la peste se pointe. Tu rentres dedans, le boss, je ne sais pas, n'importe qui. Tu rentres dedans. Scrape ta journée. Tu es mécontent. C'est de sa faute. Oh, mais qu'est-ce que Jésus a à dire là-dessus? Ah ouais, je sais, il a dit, aimez vos ennemis, je travaille là-dessus. Pardon? Aimez vos ennemis, c'est ça qu'il a dit. Faites-leur du bien, aimez vos ennemis, écoutez-le. Pas compliqué. Non, c'est pas mal plus compliqué que tu le penses, Yannick. T'es-tu tombé à genoux? Est-ce que t'as jeûné là-dessus? Mes placements vont pas tellement bien de ce temps-ci, puis tu sais, c'est pas tellement bon, ça me fait de l'anxiété, puis faites-vous-en pas les miens aussi. Anxiété, je me sens pas bien, c'est dur, tu sais, Seigneur, tu le sais, tout ça, ça m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Amassez-vous des trésors au ciel, tout ça va rouiller, ne vous inquiétez pas du lendemain, écoutez-le! Regarde, écoute, là, on est tous humains, écoutez-le. Non, mais Jésus peut comprendre, il les a touchés, il les a compris. Ils avaient peur. Ils comprenaient. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous inquiétez point du lendemain. Merci, Seigneur, t'as pourvu aujourd'hui. Demain, tu vas t'en occuper, Seigneur. Dans votre relation de couple, dans vos amitiés, dans ma relation avec Esther. Puis là, je vois tous les péchés dans la vie de mon épouse, puis c'est difficile parce que si c'était pas comme ça, on serait tellement plus heureux. Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Enlève la poutre qu'il y a dans ton œil, Johnny. Puis après ça, tu essaieras d'enlever la paille qu'il y a dans son œil. Non, tu la comprends pas, Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Écoutez-le! Et voyez-vous, on est dans ce piège, frères et sœurs. D'être en relation avec ce Jésus qui vient vers nous, puis on retient juste la compassion. On dit que les gens du monde annoncent un Dieu bonbon, n'est-ce pas? Dieu est amour, il va accepter tout le monde, tout ça. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on croit qu'on est sauvés de la condamnation éternelle par la mort de Jésus sur la croix. Mais dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait avec les paroles de Jésus? Est-ce qu'on croit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu dans toute sa majesté et qu'un jour toutes langues vont confesser son nom et que lorsqu'il ouvre la bouche, je devrais aller vers les Écritures et écouter ce qu'il a à me dire plutôt que de me plaindre? Ou est-ce qu'on tombe dans le même piège et on reste avec ce Jésus compatissant? Le verset clé dans ce passage, frères et sœurs, c'est la majesté de Jésus-Christ. Amen. C'est la gloire de Christ. Et quand je commence à contempler sa majesté, à reconnaître sa gloire, il y a plein de choses qui tombent en place dans ma vie. Je vis pour le royaume. Hugo était dedans la semaine dernière. Il était en feu, le Snowro, hein? Vivez pour le royaume, frères et sœurs. Écoutez ses paroles. Parce qu'un jour, on va se présenter dans sa présence. Tout va tomber en place. On va chanter ses louanges. Et nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'ai hâte que tu ouvres ce rideau encore une fois devant moi pour que je voie ton visage resplendir, non pas de la gloire d'un autre, mais de ta propre gloire, Seigneur. J'ai hâte de te voir resplendir comme le soleil devant moi. Et ta parole me dit dans Matthieu 13 que dans ce jour, mon propre visage à moi resplendira comme le soleil parce que je serai dans ta présence, Jésus. Dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, je veux te confesser avec mes frères et sœurs que tant de fois, j'en reste à ta compassion, à ta douceur, et je te vois comme le bon Jésus compatissant. Mais j'oublie tes commandements, tes directives qui sont si claires, Seigneur, libératrices sur ce de vie, lorsqu'on fixe les regards sur toi, Jésus, pour obéir. Sois notre Seigneur. Sois glorifié dans nos vies maintenant et continue à nous révéler ta gloire. Cette gloire que tu n'as volée à personne, qu'aucun homme ne t'a donnée. Tu y as renoncé pour un temps, pour venir vivre au milieu de nous et donner ta vie en sacrifice pour nous. Tu n'es que plus glorieux encore, Seigneur Jésus. Règne dans nos cœurs. Sois béni. Amen.